Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer les amyloses héréditaires à transthyrétine. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Cécile Coquille. Docteur Coquille, bonjour.
Bonjour.
Docteur Coquille, vous êtes neurologue, praticien hospitalier au sein du service de neurologie de l'hôpital Bicêtre, au Kremlin-Bicêtre, qui est centre de référence pour les neuropathies amyloïdes familiales et autres neuropathies rares. Vous avez également participé à l'élaboration du récent PNDS, le protocole national de diagnostic et de soins, sur les neuropathies amyloïdes familiales. Alors, docteur Coquille, aujourd'hui, on va aborder la prise en charge des patients atteints d'amylose héréditaire à transthyrétine. Cette prise en charge, comment est-ce qu'elle s'organise en France ?
Depuis maintenant plusieurs années, il existe un réseau national qui s'appelle le réseau Cornamil, qui est maintenant adossé à la filière neuropathie et maladies musculaires, qui est la filière Filnemuse, avec un centre de référence qui est l'hôpital Bicêtre et le service de neurologie, et des centres de compétences à travers le territoire. On en dénombre environ une vingtaine qui sont des services essentiellement de neurologie, regroupant des neurologues experts dans la prise en charge des maladies neuromusculaires. Il s'agit donc pour notre part, le centre de référence, de faire un travail de coordination entre ces différents centres afin de pouvoir proposer un suivi pour nos patients à travers tout le territoire, parfois un suivi conjoint entre les centres de province et le nôtre, ou parfois un suivi qui peut se faire uniquement dans le centre régional pour faciliter la prise en charge du patient en lui évitant des déplacements surnuméraires. En plus, nous avons mis en place depuis janvier 2019 une réunion de concertation pluridisciplinaire associant neurologues, cardiologues ou autres professionnels prenant en charge les patients, qui a lieu en distanciel toutes les 6 à 8 semaines, avec la possibilité pour les médecins de présenter des dossiers pour lesquels il peut y avoir une question, soit diagnostique, soit thérapeutique. Tous peuvent se connecter après inscription sur le site de la filière, sur l'onglet RCP.
Alors, si on s'intéresse plus particulièrement au traitement pour cette pathologie, quels sont les différents types de traitements qui sont proposés à ces patients ?
La prise en charge thérapeutique va s'appuyer sur deux choses principales. D'une part, le traitement anti-amyloïde qui vise à ralentir, voire stopper la progression de la maladie. Et d'autre part, les mesures symptomatiques qui vont avoir pour but d'améliorer les symptômes ressentis par nos patients, améliorer leur qualité de vie et éventuellement compenser certaines défaillances d'organes. En ce qui concerne le traitement anti-amyloïde, il en existe plusieurs sortes. Pour l'instant, les traitements visent essentiellement à empêcher la nouvelle formation de dépôts d'amylose qui sont formés à partir de la protéine transthyrétine mutée et qui a donc une conformation anormale. Le traitement sur lequel on a le plus de recul est la transplantation hépatique. On va remplacer le foie des patients alors même que celui-ci n'est pas défaillant, mais qu'il produit une protéine transthyrétine anormale de par sa conformation. Et ceci va permettre aux patients de produire une protéine transthyrétine normale et donc éviter la formation de nouveaux dépôts. Il existe toutefois certaines limites à ce traitement. Nous avons en effet identifié à travers le registre de mutations à l'échelle internationale et plus de 2000 patients que certains patients répondaient mieux à ce traitement que d'autres. Et notamment, ce traitement semble d'autant plus efficace chez les patients jeunes débutant une maladie avant l'âge de 50 ans avec la mutation VAL30MET qui est la mutation la plus fréquente et à un stade débutant de la maladie. On a constaté que certains patients s'aggravaient après la transplantation, notamment sur une progression de l'atteinte cardiaque, possiblement en lien avec de nouveaux dépôts de transthyrétine normale ou dite sauvage, qui vient s'accumuler sur les dépôts d'amylose préexistants. D'autre part, les patients au-delà d'un certain nombre d'années d'évolution peuvent aussi avoir une progression avec des symptômes en lien avec une atteinte du système nerveux central ou une atteinte ophtalmique de par la production de protéines transthyrétines mutées qui se poursuit dans ces zones sanctuaires. La deuxième ligne de traitement dont on dispose sont les stabilisateurs de la transthyrétine qui ont pour objectif de stabiliser la protéine transthyrétine en tétramère et éviter qu'elle se dissocie en oligomère, qui est donc à l'origine de l'accumulation et de la formation de dépôts. de nouvelles thérapeutiques ont vu le jour récemment. Ils font appel à ce qu'on appelle le silençage génétique, c'est-à-dire éteindre ou empêcher un gène de s'exprimer. Et elles visent donc à empêcher toute production de la protéine transthyrétine. Il y a donc chez les patients qui reçoivent ces traitements aucune production de protéines transthyrétines et donc, a priori, pas de formation de nouveaux dépôts. Ces thérapeutiques ont prouvé leur efficacité, mais toutefois ne permettent que de ralentir, voire stopper la progression de la maladie en empêchant la nouvelle formation de dépôts. Aujourd'hui, nous n'avons aucune thérapeutique disponible permettant de retirer les dépôts préexistants. La recherche est toutefois très active dans le domaine de l'amylose héréditaire à transthyrétine et nous espérons des essais cliniques et des nouvelles thérapeutiques prochainement. En plus de ces mesures à visée anti-amyloïde, il existe un certain nombre de mesures symptomatiques donc qui peuvent être soit médicamenteuses afin de soulager les douleurs neuropathiques présentées par les patients, afin de prendre en charge la dysautonomie, notamment les troubles digestifs qui peuvent être en lien avec la neuropathie végétative ou avec une atteinte digestive, en régularisant le transit, évitant les nausées, les vomissements. Prendre en charge les troubles génito-sphinctériens, ces éléments étant souvent des facteurs de influençant la qualité de vie de nos patients. Les mesures peuvent aussi être non médicamenteuses. Par exemple, dans la situation qui est l'hypotension orthostatique, on peut préconiser aux patients une hydratation correcte, une alimentation suffisamment salée, le port de bas de contention, le fait de se lever progressivement afin d'éviter des malaises en orthostatisme. Il y a ensuite la rééducation qui constitue une prise en charge importante chez ces patients atteints de neuropathie avec des déficits sensitivo-moteurs et une prise en charge qui permet d'améliorer certaines fonctions grâce à la prise en charge rééducative tant sur le plan sensitif que moteur. Il y a aussi un certain nombre de dispositifs qui peuvent être mis en place. On pense tout particulièrement aux dispositifs cardiologiques chez les patients présentant des troubles de la conduction avec éventuellement l'indication de la pose d'implantation d'un pacemaker quand cela semble nécessaire.
Alors, docteur Coquille, comme il s'agit ici d'une maladie chronique, on est bien sûr face à des patients qui nécessitent une prise en charge au long cours. Quel suivi thérapeutique est-ce que vous proposez aux patients concernés ?
Le suivi dans l'amylose héréditaire à transthyrétine est avant tout multidisciplinaire, ainsi que nous l'avons décrit dans les PNDS. En effet, il s'agit d'une maladie pouvant toucher plusieurs organes, notamment le système nerveux, le cœur, éventuellement le rein, l'œil et parfois d'autres organes aussi. Donc, il va falloir coordonner ce suivi entre différents spécialistes, intégrer le médecin généraliste dans le suivi de nos patients pour s'assurer qu'il voit les différents intervenants régulièrement. Ce suivi visant à établir si la maladie progresse, si les mesures symptomatiques sont adaptées, si le traitement est bien toléré et qu'il permet de ralentir la progression de la maladie, mais aussi d'accompagner le patient d'un point de vue psychosocial avec éventuellement l'intégration de paramédicaux pour la prise en charge rééducative que nous avons évoquée auparavant, pour un suivi psychologique qui peut être nécessaire chez certains patients, notamment au moment de l'annonce ou dans les périodes d'aggravation, et ainsi pour un suivi social afin que les patients puissent continuer leurs activités habituelles, poursuivre leur activité professionnelle s'ils le souhaitent. Enfin, l'éducation thérapeutique a été mise en place dans cette maladie. Certains programmes existent. Actuellement, il y a une aide importante de l'Association française contre l'amylose afin de rendre disponible l'éducation thérapeutique à un plus grand nombre de patients et donc un travail actif avec l'association de patients et les centres prenant en charge des patients atteints d'amylose afin d'élaborer un programme adapté à tous.
Et pour conclure, docteur Coquille, puisque l'amylose héréditaire à transthyrétine est une maladie génétique, est-ce qu'il y a des mesures à prendre pour l'entourage des patients diagnostiqués ?
En effet, il s'agit d'une maladie autosomique dominante avec une pénétrance élevée, donc un risque important de développer la maladie si jamais nous étions porteurs. Il est donc proposé un dépistage aux apparentés de premier degré, c'est-à-dire la fratrie ou les parents ou enfants de la personne malade, qui sont à risque de 50% d'être aussi porteurs de la même mutation. Le dépistage se propose dans le cadre légal, encadré par les textes de loi de bioéthique, et donc se fait dans un centre habilité avec un généticien ou un neurologue expert et un suivi psychologique. L'objectif est d'identifier les porteurs afin de pouvoir leur proposer un suivi régulier après un bilan initial pour proposer d'instaurer un traitement le plus précoce possible quand la maladie débuterait, quand les personnes passeraient d'être asymptomatiques à symptomatiques. Les traitements ont démontré leur efficacité si instaurés le plus précocement possible, ce d'autant plus qu'ils ralentissent la progression de la maladie mais ne permettent pas de revenir en arrière. Ce dépistage permet aussi de proposer aux couples qui le souhaiteraient d'avoir recours au diagnostic préimplantatoire, au diagnostic prénatal, afin de pouvoir avoir un enfant qui ne serait pas porteur de cette mutation.
Eh bien, merci mille fois, Dr Coquille, de nous avoir éclairé sur la prise en charge des amyloses héréditaires à transthyrétine. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.raralecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette pathologie. À très vite.